Troisième partie. Chapitre 1. 8 ans s'étaient écoulés depuis que Clémentia avait quitté ces villes. Pendant ce temps, il s'était opéré dans les personnes et dans les choses les changements dont nous devons parler avant de continuer ce récit. La marquise, dont les souffrances s'étaient aggravées, avait beaucoup vieilli. Son état d'inquiétude et d'irritabilité habituelle avait fait place à un état de langueur et d'abattement, commun chez les personnes gravement malades qui finissent par ne plus penser qu'à leurs propres maux. Le changement de Constance n'était pas moins remarquable. Depuis la catastrophe dont nous avons parlé et la maladie qui en fut la suite, Constance, suivant cette expression qui, pour être vulgaire, n'en conserve pas moins une haute gravité, était morte au monde. Un seul sentiment, à la fois exclusif et profond, pouvait remplacer, pour cette nature énergique, la violence d'une passion qui avait jusqu'alors rempli son cœur. Aussi, au bord du tombeau, elle condamna l'excès de son amour pour la créature, demanda à Dieu pardon si elle devait mourir, et la résignation si elle devait vivre encore. La religion fit plus, elle lui donna la consolation en chassant de son âme le désespoir, l'orgueil, l'égoïsme, l'esprit de révolte et les remplaçant par la douceur, la patience et la charité, comme la nature fait surgir d'une terre stérile des fleurs aux suaves parfums lorsqu'une main courageuse n'arrache les épines et les broussailles. Elle menait ainsi cette vie exemplaire sur laquelle certains esprits railleurs, qui n'en comprennent pas le mérite, cherchent à jeter la dérision et le mépris. Il n'est pas aussi facile qu'on le croit généralement d'arriver à la perfection dans la voie de la vertu, et si ceux qui l'entreprennent n'atteignent pas toujours leur but, ils ont du moins le mérite de l'avoir tenté, la gloire de s'enrôler sous le drapeau de la religion, le courage de s'exposer au dédain des esprits forts, de braver les railleries des incrédules et des impies, ayant pour seul encouragement l'approbation des âmes dont la vertu méconnue cherche à se dérober au regard d'un monde qui les insulte et les calomnie. Constance était du nombre de ces âmes fortunées qui marchent résolument vers leur but, tant le malheur avait détaché son cœur des choses de la terre. On aurait difficilement reconnu en elle l'élégante jeune fille d'autrefois. Son costume était plus que modeste. Elle portait toujours une robe noire à longues manches, un châle de couleur également foncée entourait et cachait son col et ses épaules. Ses cheveux aplatis sur les tempes formaient de simples bandeaux. Sa mise, en un mot, dénotait une absence complète de prétention. Ce renoncement au désir de plaire, sacrifice le plus grand qu'une femme puisse faire à la vertu, se rencontre souvent en Espagne. Nous ne nions point que dans d'autres pays, on ne trouve des femmes recommandables par leur religion et leur vertu. Mais ce type de piété profonde et entièrement détachée des choses du monde ne se retrouve que parmi nous. Quoi qu'on ait pu dire, les nationalités ne s'effacent point d'un trait de plume, et chaque peuple, malgré la facilité des communications qui favorisent les mélanges, n'en gardera pas moins les traits distinctifs de son caractère propre. On en voit la preuve dans le contraste offert par les deux capitales, foyers de la civilisation, Paris et Londres, qui conservent, malgré leur rapprochement et leur rapport journalier, une physionomie si différente l'une de l'autre. Nous ne saurions comprendre le mobile qui porte certaines personnes de mérite et de talent à vouloir tout jeter dans le même moule général. Nous comprenons encore moins l'avantage de ce nivellement. Qu'un pays sans passé, sans nationalité, sans tradition, adopte un caractère étranger, faute d'en avoir un propre, comme l'Amérique du Nord le caractère anglais, l'Amérique du Sud le caractère espagnol, cela se conçoit. Mais que, dans la patrie des Pélages, du Cid, de Calderón, de Cervantes, il se trouve des hommes qui veuillent abandonner leur type national pour adopter celui de leurs voisins, voilà ce qui ne peut se comprendre, ce qui répugne également au bon goût, à la raison, au patriotisme. Constance était devenue pieuse sans ostentation ni pruderie. Les personnes dévotes ne sont point parfaites, bien que les gens du monde exigent d'elles une perfection dont ils se croient dispensés. Mais Constance joignait à toutes ses vertus la douceur et la tolérance, ce qui, chez elle, était le plus beau triomphe obtenu par l'humilité chrétienne. Son regard, autrefois dur et hautain, était devenu doux et modeste. Son air si dédaigneux était maintenant bienveillant et ses manières sans affectation, dignes et affables. Dans les soins minutieux que demandait la longue et pénible maladie de sa mère, elle supportait avec une admirable patience ses exigences et repoussait les éloges qu'on lui adressait à ce sujet. Quant aux autres personnages, le changement avait été peu considérable. Ces 8 années avaient passé sur Dongallo comme les précédentes. Ses appointements n'avaient pas augmenté. Ses perruques se succédaient dans leur ordre régulier comme par le passé, et son lorgnon en argent faisait toujours le même service. Ses collègues avaient eu de l'avancement ou avaient changé de destination. Son bureau même n'occupait plus le même local, mais Dongallo l'avait suivi, toujours fidèle à son poste, occupant la même place et se servant des mêmes cartons. Les années avaient aussi passé sur l'arrogante Dona Eufrasia comme les vents du sud sur les remparts d'une forteresse et, au grand désappointement du trésor, elle avait continué de toucher maintes annuités de sa pension de veuve. La seule altération visible chez Don Sylvestre était une certaine diminution dans la proéminence de son ventre. Rossi, comme par le passé, soignait de son mieux le mercure, auquel tous les jours il s'attachait davantage. L'accueil de Madame de Cortegane à sa nièce fut triste, quoique affectueux, et Clémentia subit la longue et minutieuse relation des souffrances de sa tante. Constance témoigna une joie calme et sincère de revoir sa cousine, sans que, de part ni d'autre, il fût fait la moindre allusion à l'horrible catastrophe dont Clémentia avait été témoin. Quelques jours après, Allegria, devenue marquise de Valdemar, appelée par l'état alarmant de sa mère, arriva aussi à Séville, de Madrid, où elle demeurait avec son mari et ses enfants. Allegria était devenue le type idéal de l'élégance et du suprême bon ton. Elle semblait une vraie gravure de mode. Mais sa vie dissipée, ses longues veilles, l'agitation des plaisirs et des bals l'avaient beaucoup amaigrie et vieillie, en lui enlevant sa fraîcheur et tous les charmes de sa jeunesse. Le soir et en toilette, elle était encore assez bien, mais au grand jour, elle ressemblait à une fleur que le vent d'automne a commencé de flétrir. Son mari, déjà parfait modèle de distinction, était devenu le type du bon époux et de l'excellent père. Quand Allegria vit Clémentia, qui, grâce à une vie pure et tranquille, avait su conserver toute sa beauté et toute l'innocence de son cœur, « Quelle santé! Quelle fraîcheur ! » s'écria-t-elle. « J'ai presque envie, en te voyant, d'aller passer quelque temps à Villa Maria. Dussé-je en revenir affublée d'une toilette aussi surannée que la tienne ? Le veuvage te va à ravir, et puis tu es riche. Oui, je le sais, il y a un certain oncle. Il t'en a bien coûté 8 ans d'exil, mais tu étais là-bas comme le poisson dans l'eau. Au fait, tu as bien fait d'attendre, car, ma chère, l'argent, c'est tout. » « Tu es une femme heureuse, ma fille. Ne va pas au moins faire la folie de te remarier. » Clémentia avait écouté cette tirade avec le plus grand étonnement et sans comprendre la malice de certaines expressions. Mais, au dernier mot, se rappelant la promesse qu'elle avait faite à son oncle, « Pourquoi, dit-elle à sa cousine, serait-ce une folie de me remarier ?»« Parce que tu perdrais ta liberté. » reprit Allegria avec plus de malice qu'on en met ordinairement à cette phrase absurde et banale. Mais quelle est donc, Allegria, cette liberté permise à la veuve et interdite à la femme mariée? Quelle naïveté, mon enfant! La liberté dont je parle est celle de pouvoir faire toujours ta volonté. L'avais-tu quand tu étais sous le joug d'un mari? « Croirait-on, dit Clémentia, que celle qui parle ainsi est pour mari l'homme le plus soumis, le plus attentif à prévenir tous ses désirs ? Cela n'empêche que la femme qui a un mari et 3 enfants ne soit esclave. Des enfants, quelle charge, quel ennui, quelle plaie ! Des enfants ! Mais ils épuisent toute la patience, détruisent la santé, dégoûtent de tout et ne laissent de temps pour rien. C'est une calamité !» « Jésus !» s'écria Clémentia, étrangement surprise de ce langage. « Tu appelles des calamités les bénédictions de Dieu répandues sur l'union conjugale et ennuis les saints devoirs de la maternité. Mais à Villa Maria, les pauvres mêmes ne sont jamais plus heureux que lorsque Dieu leur envoie une nombreuse famille. » Allégrille partit d'un rire moqueur. « Il est dommage, dit-elle, que tu ne sois pas la femme de mon mari. À vous deux, vous seriez allés peupler une île déserte. Pour moi, qui n'aime pas la vie patriarcale et qui suis de mon siècle, comme disent les journaux, j'appelle les enfants une charge, le mariage un joug. C'est l'opinion de ma dévote sœur Constance elle-même. Seulement, elle le gratifie de l'épithète de saint. Mais s'il est si fort à ton goût, comment es-tu restée veuve pendant 8 ans ? Je l'avoue, je n'ai pas grande foi dans la sincérité de tes paroles. » Clémentia se sentit confuse de voir ainsi réduite en système une prévention que lui avait inspirée parfois ses malheurs domestiques, mais que son oncle lui avait fait envisager comme un sentiment purement égoïste et peu naturel à la femme. « À Villa Maria, répondit-elle en rougissant, il n'y avait guère de prétendants et ma vie était si douce que je l'aurais toujours préférée à tout autre, non à raison de la liberté dont je pouvais jouir, mais du bonheur que je trouvais auprès de mes parents et de mon affection pour eux. » Ainsi, demanda d'un air moqueur Allégrille, tu serais disposée à te remarier ? Si je rencontrais un homme qui sût me plaire et si j'espérais faire son bonheur, je l'épouserais. « C'est la promesse que j'ai faite à mon oncle, » répondit Clémentia. « Tu serais bien bonne de la tenir, » s'écria Allégrille. À ce moment, Constance entra, annonçant que sa mère, ayant passé une fort mauvaise nuit, venait enfin de s'endormir. Allégrille profita de cet instant de repos pour faire quelques visites et sortit après avoir arrangé sa toilette devant une glace. Pour la première fois depuis le retour de Clémentia, les deux cousines se trouvaient seules, Constance ne quittant jamais le chevet de sa mère. Elles restèrent quelque temps en silence. Tout à coup, Clémentia prit les mains de sa cousine et les serra affectueusement dans les siennes, en laissant tomber 2 larmes. « Constance, dit-elle, je t'admire et je te respecte. » Un tremblement imperceptible agita les lèvres de Constance, mais elle se tut. « Comment as-tu fait pour oublier ? » demanda sa cousine. « J'ai repoussé loin de moi tout souvenir. »« Et tu as réussi ?»« Oui, Clémentia, grâce à la prière. J'ai dit à Dieu, éloignez de moi ce qui m'éloigne de vous. Dieu écoute celui qui l'invoque, il m'a exaucé. » « Oui, Constance, il t'a exaucée en te rapprochant de lui par l'épreuve et par la maladie de ta mère, il t'a fourni l'occasion de nous montrer que tu es une sainte. »« Tais-toi, reprit vivement Constance, je ne ferai jamais assez pour effacer le souvenir de mon injustice et de mon ingratitude envers celle qui me donna le jour. Crois-moi, Clémentia, lorsque mes veilles et mes peines ne parviennent pas à lui plaire, pas, lorsque dans ses douleurs elle repousse mes soins, je la remercie encore de souffrir que je m'acquitte d'un saint devoir dont elle aurait raison de me croire indigne. Car n'ai-je pas osé dire un jour que je ne l'aimais pas ? C'était dans un moment d'exaltation, Constance. Non, Clémentia, cette exaltation était mon état habituel. L'orgueil, la colère, l'esprit de révolte aveuglaient ma raison. J'ai été une fille ingrate et dénaturée. Mon obstination a coûté la vie à l'homme dont j'aurais pu faire le bonheur et à moi la félicité à laquelle j'aurais pu arriver si j'avais employé des moyens moins violents et j'aurais perdu mon âme même si Dieu, en me mettant aux portes du tombeau, n'eût ouvert mes yeux à la lumière céleste. J'admire ton humilité, Constance. Ce n'est pas être humble que de reconnaître ses fautes, mais grâce au ciel, mon orgueil d'autrefois ne domine plus mon cœur. Tu vas encore plus loin, Constance. Tu méconnais tes vertus. Comment es-tu parvenue à cacher cette douleur profonde qui, je le sais, a brisé ton existence ? Clémentia, lui répondit Constance d'une voix émue et faible, nous perdrions le mérite des douleurs que nous offrons à Dieu comme une expiation si nous ne les cachions avec soin au regard de la terre.